Cinérama.
Cette nuit, notre plastron émetteur a été saboté.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Espèce de sac à poutre.
Je t'aime.
Tu vas roter du sang.
Cinérama.
Défense de rire et défense de pleurer.
Moi, ce qui me fait chier, c'est les effets spéciaux minables. Je supporte plus.
Je suis ton père.
Un très beau film.
Ça fait toujours plaisir à entendre.
On n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Je dois reconnaître que vous affirmez des choses plutôt incroyables et qui devraient être vérifiées.
Cinérama.
Bon, en piste les louloutes.
Actualité cinéma et tout le reste sur Divergence FM.
Bonjour et bienvenue à l'écoute de Cinérama, émission hebdomadaire de cinéma sur Divergence FM. Nous sommes le mercredi 2 mai. Bonjour Marine.
Bonjour à tous.
Et bonjour Manu.
Bonjour.
Alors le joli mois de mai, s'annonce bien. Dans quelques semaines maintenant, il va y avoir Cannes. Et puis, les films vont sortir de moins en moins sur les écrans. En revanche, il y a une bonne flopée de films qui est sortie la semaine dernière. Alors on n'a pas d'avant-première cette semaine, mais on a quand même pas mal de films sortis soit la semaine dernière, soit il y a 15 jours. N'est-ce pas Marine ?
Oui, alors moi je vais vous parler de nouveaux départs pour le côté film américain. Je vais vous parler de Tyrannosaure, qui est un film anglais, et de L'Enfant d'en haut, qui est un film franco-suisse, me semble-t-il.
Oui, en tout cas, une réalisatrice qui vit du côté de la frontière, dans le pays de Gex. Manu, toi, film de série B, un grand chef-d'œuvre.
Je vous parle d'un classique en fait, du cinéma fantastique espagnol des années 70, un film un peu matrice qui a donné à beaucoup de cinéastes fantastiques espagnols aujourd'hui l'envie de réaliser Les Révoltés de l'an 2000.
Et puis il y avait, alors moi je vous parlerai d'un film bulgare, et on va parler d'un film bulgare, mais on va aussi parler d'un gros blockbuster. C'est Avengers qui est sorti la semaine dernière et qu'on a tous les trois vu.
Pour une fois.
Donc voilà, oui, ça. Alors on verra si on est d'accord sur le rendu de ce film de super-héros, ce qui nous donnera aussi l'occasion de jouer un blind test. On essaiera de découvrir ce qui se cache derrière les extraits. Alors ce sera soit des super-héros de Marvel ou soit des super-héros de DC Comics, puisque les deux s'opposent un peu dans le monde cinématographique. C'est Cinérama et ça dure une heure.
Cinérama sur Divergence FM.
Et on commence tout de suite avec Nouveau Départ. Alors attention, pour bien commencer, jouons ensemble à présent. Je vais vous faire écouter l'une des premières scènes du film. Et vous avez 3 secondes, pas plus, sinon c'est trop facile, pour deviner s'il s'agit, petit A, d'un film coréen, petit B, d'un film de Jean-Luc Godard, ou petit C, d'un film américain.
Allez, allez les enfants, on est en retard. Allez. Dépêchez-vous les enfants, on est vraiment en retard.
Ah, papa, je vais me faire des gaufres.
Non, je veux que tu manges des œufs. On a le temps et t'as besoin des protéines.
On n'a pas le temps.
Maman me donnait toujours du lait d'amande.
Ah, attends, est-ce que tu... Je pourrais faire ça. Est-ce que vous avez dit bonjour, moi? Allô, Benjamin, mamie?
Attention, papa.
Je suis pas sur... Salut, Sharon.
Ça commence comme une pub Kinder. Hein.
C'est plutôt. Et c'est ça pendant tout le film. Je vous écoute, réponse.
Eh bien, je pense que c'est un film ougandais.
Oui, c'était ça, bravo, c'est bien d'un film américain. Donc en effet, il s'agit d'un film de Cameron Crowe, réalisateur à qui l'on devait déjà Jerry Maguire, et presque célèbre tous les deux, sur le très américain thème de la deuxième chance, et il aborde à nouveau ce sujet, donc ici, dans Nouveau Départ. Le film de la nouvelle vie pourrait être un genre à part entière, tant il passionne le cinéma américain, mais il se contente la plupart du temps de faire office de films convenus, aux dialogues recyclables et aux situations téléphonées, qui ne dérangera personne et ne proposera pas une seule idée de cinéma. Nouveau Départ ne déroge pas à la règle en nous proposant dès le début une histoire totalement surréaliste. Un père de famille, Matt Damon, ayant perdu sa femme, décide d'acheter une nouvelle maison et se retrouve à hériter d'un zoo à l'abandon. Animé d'une furieuse envie de changer de vie et de faire plaisir à sa fille, il s'embarque dans ce projet un peu trop ambitieux pour lui. L'infortuné a quand même de la chance dans son malheur, puisque la vétérinaire du zoo est Scarlett Johansson, qui porte une chemise à carreaux mais parle avec la voix d'une femme fatale qui aurait bu du scotch pendant 30 ans.
Il en pesait 770, mais il était stressé. Vous savez, il est morose. On le traitait au Paxil, mais ça revenait trop cher, alors il est déprimé de temps en temps. Mais il peut encore vous arracher un bras facilement.
Oui, là, en fait, elle parlait d'un tigre. Elle est épaulée par sa cousine, qui a, quel heureux hasard, le même âge que le fils de Matt Damon, et qui, elle, parle comme ça.
Parler aux animaux doit être fait d'une façon très spécifique. Tu sais, il ne l'a pas encore, mais il va apprendre. Où t'as tes chaussures? Et combien est-ce qu'elles t'ont coûté? Près d'ici, nous avons un Target et c'est ta case. Attends
Elle est d'ailleurs interprétée par Elle Fanning, que l'on a vu dans Twixt, et qui est bien meilleure actrice lorsqu'elle est morte. Le tableau ne serait pas parfait sans un méchant inspecteur qui veut faire fermer le zoo et qui lui parle comme ça.
Pourquoi avez-vous acheté ce parc ? J'ai de la difficulté à saisir votre logique.
Bien évidemment, tous ces doublages atroces n'auront pas à être supportés en version originale, mais cela ne rendra pas le film bon pour autant. Au final, le film n'a pour seule ambition que d'être un innocent feel-good movie, office qu'il ne remplit qu'à moitié, dans la mesure où, si vous n'avez ne serait-ce que de sensibles ambitions cinéphiles, le film, à défaut de provoquer le bonheur et le sourire en vous, vous étouffera à coups de bons sentiments indigestes et de réalisations bâclées. Nouveau départ se permet de faux raccords invraisemblables, supposés appuyer les points cruciaux du film, tels que le passage d'un temps d'orage à un grand ciel bleu dans la même scène, censé symboliser le retour à l'optimisme qui, c'est bien connu, le pouvoir de faire s'évaporer toutes les flaques d'eau. La niaiserie atteint ici un niveau radioactif, tandis qu'inversement, la psychologie des personnages demeure au degré zéro. Tous sont moulés dans la guimauve. La vétérinaire taciturne qui se transforme en gentil bombe sexuelle au bout de deux jours, le fils rebelle qui se remet sur les rails de l'obéissance, la petite fille blonde qui sort d'une pub pour Chocapic, et bien sûr, le grand noir qui rigole tout le temps. Même les lions sont de gentils peluches qui évoluent dans des enclos sans barrière. Le film vise un public adulte, mais se contente de le pourvoir en gag de très bas niveau, au lieu de lui proposer un traitement de la question humaine et de nos similitudes comportementales avec nos amis les bêtes, ce qui aurait été par exemple un sujet assez intéressant. Trop ennuyeux pour les enfants, trop stupide pour les adultes, Nouveau départ correspond peut-être simplement à un public américain naïf auquel on ne souhaite pas ressembler. Je ne crois pas violer un secret capital en vous révélant que ça se termine très bien, même les animaux ont le sourire, et le gentil fantôme de la maman défunte revient assurer sa famille de sa protection, provoquant dans votre œsophage une remontée incontrôlable et acide de pop-corn. Voilà, c'est répugnant, n'allez pas voir ce film surtout. Mais ça passe quand même au Gaumont Multiplex et Gaumont Comédie si ça vous tente.
Et donc Matt Damon est vraiment meilleur dans les films d'action, c'est ce qu'on peut retenir aussi.
Oui, de toute façon, il n'a clairement rien à jouer à part le bon américain de base, qui est un bon père de famille. Voilà, ça se limite à ça en fait, son personnage.
Merci Marie.
Si vous aimez les essuie-glaces et les tranquillisants sur pellicule,
Cinérama,
je suis allergique,
sur Divergence FM.
Il est rare de voir un film bulgare et c'était bien trop tentant après avoir vu il y a deux ans déjà le très bon Eastern Plays d'Adam Klimov, un film sur la Bulgarie qui après l'effondrement du socle communiste est en proie à l'individualisme et au nationalisme. Preuve que si les Bulgares accueillent beaucoup de films étrangers, des tournages, quand ils achètent la pellicule, eh bien ils ne la gâchent pas forcément. Mais on ne pourra comparer très longtemps Eastern Plays avec Ave, film de Constantin Bojanov, qui a quand même été nommé pour le Grand Prix de la Semaine de la Critique à Cannes. C'était en 2011. Alors ça commençait pourtant bien. Le jeune Kamen, après avoir appris une mauvaise nouvelle dont on ne sait rien, quitte Sofia pour Rousset. Alors si on veut se représenter le trajet, on n'a qu'à dire que Sofia c'est Paris et que Rousset c'est Brest. Et puisqu'on est dans les comparaisons, on peut aussi dire que le réseau routier bulgare n'a rien à voir avec le nôtre. Donc Kamen part en stop et rencontre bien malgré lui, avait une jeune fugueuse de 17 ans. Disons que la jeune fille s'impose, le col au basque, et l'aide à grimper de voiture en camion à sa manière. Alors dès qu'ils sont dans une voiture, elle leur invente une vie, son frère ou petit ami ont une grand-mère mourante. Si Clemen est d'abord interloqué par tant de mensonges, il se laisse peu à peu séduire par cette jeune femme qui cache elle aussi un secret. Alors la première partie du road movie est plutôt attachante, déjà parce que les deux beaux personnages ont leur part de mystère et que les dialogues sont rares. Dans ce paysage bulgare où une séquence sur deux est ponctuée de crachins, on est alors partagé entre la mélancolie et quelques moments de poésie. Il faut dire que les mensonges d'Ave peuvent être savoureux, surtout si on n'a que ça à se mettre sous la rétine. Le film vagabonde, comme ces personnages restent dans une mélancolie, mélancolie sourde, nous convie à une scène de larmes effroyable et nous fait repartir de plus belle avec ces personnages. Des personnages qui, durant ce road movie, ont changé l'un et l'autre, l'un avec l'autre. C'est le jeune Clemen qui s'en va à expliquer un moment dans le film aux adultes que la vie, quand elle se résume à aller d'un point A à un point B, ne mérite pas forcément qu'on la vive. Le film, lui, nous emmène d'un point A vers un point indéterminé. On y croise l'adolescence, le mal-être, l'autre, le mensonge qui aide à se cacher la triste vérité. On aperçoit la mort aussi, et puis l'amour, on traverse la Bulgarie, on voit du pays. Mais ces personnages si attachants au départ, qui gardaient une part de légèreté, finissent par la perdre. C'est la mélancolie qui domine. C'est peut-être un beau coup d'essai pour le réalisateur Constantin Bojanov, qui ne nous dépeint pas une Bulgarie complètement aux abois, et préfère s'attacher à ces deux personnages. Mais je n'attendrai pas son prochain film avec impatience, comme je le ferai pour son compatriote Adam Klimov. Sinon, AV, donc, est projeté au cinéma Diagonale. Pas du tout extrait de la bande originale du film bulgare. Hein.
Non, c'est extrait de la bande originale du film Projet X, que je ne vous conseille toujours pas, mais qui a par contre une très bonne BO. Et ça, c'était The Kills, remixé par Sébastien.
Cinérama.
Je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
Alors, n'ayant aucune nouveauté à commenter en pleine période électorale, même si ça n'a rien à voir, je vais vous parler d'un petit classique du cinéma fantastique espagnol, réalisé par un cinéaste, Narciso Ibáñez Serrador, qui est un peu le père spirituel des jeunes loups tels que Balaguero, Plaza ou Alex de la Iglesia. Si j'avais pensé, au départ, j'avais pensé vous infliger une vraie série Z, improbable, genre Virus Cannibale ou Mon curé chez les nudistes, mais je suis revenu à la raison. L'histoire des révoltés de l'an 2000, elle est tout de même insolite. Tom et Evelyn, un couple britannique, sont en vacances dans le sud de l'Espagne. Ils débarquent sur l'île d'Almozora, où ils découvrent un village pratiquement abandonné. Curieusement, seuls les enfants semblent habiter l'île. Ils devront faire face à la terrible vérité. Les enfants se sont transformés en assassins, bien décidés à supprimer tous les adultes de l'île. La traque ne fait que commencer pour nos deux touristes égarés.
Thank you.
Accrochez-vous sérieusement à votre siège. Les 6 premières minutes, soit l'intégralité d'un générique traumatisant, aussi percutant qu'une redescente d'acide, risquent de faire l'effet d'une sérieuse douche froide pour tout spectateur qui s'attendait à visionner un film fantastique classique. Insoutenable et ambigu, le film débute par toute une série d'images d'archives, d'enfants morts, maltraités, victimes de malnutrition, de famine, de torture. Bref, ça commence fort par des corps entassés dans des camps de concentration, pour poursuivre quelques années plus tard en Asie avec des enfants mutilés, victimes des atrocités de la guerre. Ensuite, direction l'Afrique, avec toute une série de silhouettes décharnées, tenant à peine debout, de corps fragiles ne possédant que la peau sur les os. Serrador impose au spectateur un condensé d'horreur absolue en quelques minutes. Je vois bien déjà les bien-pensants sortir le coup du voyeurisme larvé, de l'étalage de complaisance pour choquer gratuitement le spectateur. Évidemment, un tel prologue n'est pas un modèle de subtilité. Il s'agit juste d'un coup de gueule, d'un cri désespéré sur une vérité à la fois naïve et universelle. Ce sont toujours les enfants qui trinquent. Que ce soit dans les guerres, les dictatures, les systèmes politiques inégalitaires, l'innocence est toujours frappée de plein fouet. Ce constat est souligné par un commentaire un rien didactique. Alors, Serrador, auteur politique, humaniste en colère, moraliste culpabilisant notre confortable situation ? Oui et non. Les premières images fictionnelles d'ailleurs instaurent une ironie assez forte. À ces documents d'époque effrayants, Serrador oppose une série de plans ensoleillés sur une plage d'Espagne. Il insiste sur les corps empâtés de l'occidental moyen. Si l'on décelait pas dans cette mise en place un humour acide, on pourrait trouver ce dispositif grossier et schématique. Cinéaste culte par excellence, sort de Pierre Tchernia ibérique, très populaire dans son pays grâce à ses contributions télévisuelles, notamment la série Historias para no dormir, Serrador signe un deuxième chef-d'œuvre après le fabuleux La Résidence, qui servit d'ailleurs un peu de matrice à un film de Dario Argento, Suspiria. L'argument fantastique des révoltés de l'an 2000 est ténu. Des enfants sur une île massacrent tous les adultes pour une raison obscure. Le prologue nous oriente vers une explication plausible, mais ce n'est pas la seule. Serrador joue très habilement sur l'ambivalence de l'enfance entre cruauté et innocence. Le couple présent sur l'île ne peut se résoudre à accepter une vérité qui pourtant saute aux yeux dès leur arrivée dans le village. Ce couple présente d'ailleurs des symptômes de discorde qui convergent intelligemment avec le récit. Madame est enceinte et attend donc son troisième enfant. Monsieur, inquiet, tente de dissuader sa femme de garder l'enfant. Étrange dissonance qui prend toute sa dimension métaphorique par la suite et alimente la complexité du récit. Serrador s'inspire tout autant des Olivados de Buñuel que du Village des damnés de Wolf Rilla, mais parvient à s'échapper de ses modèles, à singulariser sa démarche artistique, notamment dans son refus d'explication. Pourquoi se comporte-t-il comme des assassins ? S'agit-il d'un virus, d'un cas de folie collective ou d'une force démoniaque ? Ou, plus retors encore, d'un juste retour des choses où la nature humaine reprend ses droits ? Même une autre hypothèse, encore plus farfelue, a germé dans mon esprit à un moment donné. Ce film pourrait être une expérience mentale et traumatique d'un couple en crise. Les enfants, d'ailleurs, sont des silhouettes maléfiques étrangement privées de langage. Tout au mieux, entend-on leur rire glaçant, tout droit sorti d'une comptine d'un giallo. L'angoisse naît de leur apparente absence de motivation. S'il y a révolte, elle se déroule sans haine ni passion. Les explosions de violence sont aussi rares que percutantes. Elles font froid dans le dos. La mise en scène, solaire et douce, tranche d'ailleurs avec la brutalité des situations. D'amples mouvements de caméra et des plans insolites bercent cette fable cruelle qui marqua toute une génération de cinéphiles. Le film est toujours dispo chez Wildside et si j'ai choisi d'en parler aujourd'hui, c'est que je rêve de pouvoir le passer à l'absurde séance l'année prochaine. Mmh. On en a parlé avec Arnaud et il se pourrait, si une copie est disponible, qu'on le passerait. Voilà. C'est un peu pour ça que j'en parle. Et enfin, le titre Les Révoltés de l'an 2000 ne rend pas justice, je trouve, à la force du film. Ça fait un peu titre de série Z apocalyptique. Et le titre original, c'est Quien puede matar a un niño. Donc, peut tuer un enfant.
Qui peut tuer un enfant ?
Voilà, qui peut tuer un enfant.
En tout cas, tu as fait référence au Village des damnés, hein, excellent film.
Excellent film. Même le remake de Carpenter est pas mal d'ailleurs. Il en a fait un remake.
C'était pas Shyamalan qui avait fait le Village, non ?
Le Village, mais ça avait rien à voir avec.
Ah bon, il me semblait que c'était un peu adapté. Non, pas du tout. Je dois confondre en fait. Ok. Merci beaucoup, Manu. Avant de retrouver Avenger. On va parler d'un tyrannosaure. Ce n'est pas un film sur.
Pas un film de super-héros, ce n'est pas la suite de Jurassic Park.
C'est pas la suite de Jurassic Park.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Cinérama.
Connerie, je vous dis. Et même saloperie, hein.
Sur Divergence FM.
Le tyrannosaure du titre, c'est à la fois Joseph, personnage central qui peut se laisser emporter par la colère à tout moment, et sa femme décédée, dont le souvenir dévorant le hante et entretient sa culpabilité. Joseph habite Glasgow où il traîne sa rage et sa violence, vivant seul, buvant trop et agressant tout ce qui bouge. Un jour, il se réfugie dans une boutique tenue par Anna. Toute prête à aider cette âme égarée, Anna lui tend la main sans succès. Joseph rejette celle qu'il pense être une grenouille de bénitier, vivant bien au chaud dans un mariage confortable. En découvrant que la réalité est tout autre et que c'est peut-être la sainte elle-même qui aurait besoin d'être sauvée, Joseph se retrouve empêtré dans ses contradictions, s'accrochant à sa solitude comme à une habitude rassurante, tout en étant tenté de trouver une rédemption au contact d'une femme aussi désespérée qu'il est tourmenté.
I met people you all my life. Goody goodies. Make a charity record. Bake a cake. You know what it's like out there, you have no clue.
What are you laughing at?
I prayed for you last night. God loves you.
Does he now?
He's a beautiful dog.
Came by your shop today, and you wasn't there. You were spotted with a man.
I'm sorry for yesterday, some of the things I said.
Premier film de Paddy Considine, Tyrannosaure a les défauts et les qualités des premières œuvres. Parfois un peu maladroit, tellement attaché à faire valoir son propos qu'il n'hésite pas à trop appuyer sur ce que l'on a guère envie de voir. Paddy Considine est à la fois acteur, acteur et plutôt habitué à des rôles ténébreux chez Jim Sheridan ou Ron Howard. Et c'est pour donner suite à son premier court-métrage Dog All Together qu'il a réalisé Tyrannosaure. Un coup d'essai réussi qui a raflé en 2011 à Sundance les principales récompenses. Armé d'une réalisation percutante qui donne au spectateur la désagréable sensation de ressortir du film couvert d'hématomes, Tyrannosaure y va franchement pour exprimer la violence humaine et en faire le procès, quitte à amplifier la teneur dramatique à outrance pour bien faire passer le message. Certains aspects de l'histoire sont heureusement gardés sous silence, évoqués juste assez pour assombrir un peu plus la toile de fond du scénario, sans trop plomber le film par un surplus d'éléments tragiques. Bien que l'on puisse quand même lui reprocher de charger l'histoire en rebondissements sanglants qui ferait passer irréversible pour un épisode de Sous le soleil, le film est globalement très réussi grâce à une photographie soignée. Si le décor et l'ambiance sont misérabilistes à souhait, l'image, elle, ne se laisse pas appauvrir au profit du récit. Lumière et cadrage sont davantage soignés que dans les drames sociaux anglais habituels et habités par des acteurs qui endossent brillamment les très difficiles rôles qu'ils ont à porter. Peter Mullan campe à un personnage monstrueux jusqu'au bout, fragile et effrayant, le rendant volontairement impossible à aimer, mais rendu presque attachant par son manque d'humanité. De cet enchaînement de scènes sordides naît une sorte de beauté difforme, une alchimie si crédible entre les acteurs qu'elle nous enlève l'idée même d'assister à une fiction. C'est excellent et c'est totalement insupportable en même temps. Donc si vous voulez le voir, prévoyez quelques Lexomil, ça met pas vraiment de bonne humeur et ça donne pas la patate, mais c'est quand même très très bon. Et ça passe au Diagonal encore.
Et en tout cas, c'est le chouchou des cinéphiles américains.
Oui, et puis tout le monde en parle vraiment énormément, ça a de très très bonnes critiques.
Et il a eu un BAFTA, je crois.
Oui,
aussi,
prix du meilleur premier film.
Voilà. Merci, on passe maintenant à quelque chose de plus costaud.
Cinérama.
Bon, est-ce que de voir ce film, ça vaut le coup de se prendre une méga prune, fourrière et compagnie ?
Sur Divergence FM.
Et cet Avengers, réalisé par Joss Whedon, avec Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson et Samuel Lee Jackson.
Il y avait un projet. Le projet de réunir un groupe de personnes hors du commun. À notre disposition. Pour livrer les batailles. On ne pourrait gagner.
On aurait pu croire que Avengers, le blockbuster américain avec son budget de 220 millions de dollars, serait la plus grosse sortie du 25 avril. Eh bien non, ce sont les vacances de Ducobu qui raflent la majorité des écrans, avec une centaine de plus à la faveur du roi des tricheurs qui se retrouve au camping où il n'y a pas Dubosc, mais Elie Semoun.
Décidément, ce garçon n'est pas un héros. C'est un super héros.
Mensonge, calomnie, les super-héros étaient bien dans Avengers, c'est pas qu'un peu. Il y avait Hulk, Iron Man, Captain America et le dieu Thor, pour ceux qui ont des super-pouvoirs, aidés par Black Widow et Nick Fury, qui s'ils n'ont pas de super-pouvoirs, ont quand même de sacrées dispositions à...
La bagarre !
Eh ouais, la bagarre. Réunir autant de grosses frappes dans un seul film, voilà un projet ambitieux pour les studios Marvel qui détiennent les droits d'adaptation sur la lignée de super-héros. On les avait vus séparément. Alors Iron Man, déjà interprété par Robert Downey Jr. par deux fois en 2008 et 2010. L'incroyable Hulk était sorti en 2008, alors interprété par Edward Norton. Thor en 2011 et Captain America, le super-héros le plus vieux de toute la bande, est apparu pour la première fois sur nos écrans l'été 2011, mais il y avait eu déjà des adaptations cinématographiques dans les années 40. Alors les présentations avaient donc été faites avec nous, cher public. Pour Marvel, les Avengers ont été créés donc dans les années 60 pour faire face à la concurrence d'autres comics qui avaient déjà une team de super-héros capables de sauver la Terre main dans la main. Quatre super-héros valent mieux qu'un, et c'est vrai qu'on ne s'ennuie pas, d'autant que la première partie d'Avengers insiste davantage sur l'ego de chacun et l'incapacité de participer à une aventure collective.
Ne le prends pas mal, mais je fais cavalier seul.
Tu joues les héros avec ton armure, mais sans elle, tu es quoi ?
Ingénieur, milliardaire, playboy, philanthrope.
Nous voilà en mauvaise posture, hein, nous terriens, car le mal qui s'abat sur la Terre nous apparaît terrible. Loki, un terrible guerrier au style gothique, s'est emparé du cube cosmique. Et oui, c'est une sorte de porte des étoiles, et menace d'asservir les humains qui perdent leur temps avec le concept bien trop pointu de liberté.
Vous voulez faire la guerre à mon monde. Vous volez une force au-delà de votre contrôle. Vous dites aimer la paix et vous tuez pour le plaisir. Je suis prêt à admettre que vous me désespérez. Et vous pourriez bien le regretter.
Ça vous rend fou d'être si près du but. Si près d'avoir le Tesseract. Le pouvoir. Le pouvoir absolu. Pour en faire quoi ? Illuminer l'humanité tout entière. Avant qu'on vous rappelle ce qu'est le véritable pouvoir.
Alors dites au véritable pouvoir de m'appeler s'il veut un magazine ou quoi que ce soit d'autre.
Allez, encore une petite pointe d'humour. L'histoire est donc assez simple, on est attaqué et le SHIELD qui veille sur la paix mondiale, alors SHIELD c'est un acronyme dans le film, j'ai pas compris ce que c'était, mais ça veut dire l'insigne en américain en tout cas, enfin oui, l'insigne du policier. Le SHIELD n'a pas eu le temps de fabriquer une arme dissuasive pour se battre contre le méchant et doit compter sur une bande de super-héros qui a beaucoup de peine à se coordonner. Alors on nous dresse vite le portrait des super-héros. Captain America en collant Mulburn est un introverti meneur de troupes qu'on a décongelé. Iron Man est bien un personnage spirituel et égocentrique qui a l'avantage de mettre de la bonne humeur hein, pour les soirées Armageddon. Thor, lui, est un dieu donc qui est fier. Quant à Hulk, quand il n'est pas ce monstre vert caractériel au pouvoir destructeur, eh bien, c'est un scientifique paisible dévoué à son prochain. Alors si dans chaque segment on pouvait bien comprendre les problèmes de chacun de ces super-héros, hein, parce que c'est une marque des super-héros, il y a toujours une faiblesse, des contradictions à résoudre pour celui qui détient des pouvoirs hors du commun, et bien ici en 2h20 et 6 individualités, on ne perd pas trop de temps avec la psychologie et vu comment est taillé le méchant, vraiment méchant jusqu'à expliquer qu'il est clairement pour un fascisme décomplexé, la cause est entendue.
Qui pourrait me faire peur ?
Les Avengers ?
C'est le nom qu'on a choisi, une sorte d'équipe. Les plus grands héros du monde, ça vous plaît ?
Oui, je les connais.
Oui. On a mis un peu de temps à se coordonner, je l'admets. Mais faisons un appel des troupes. Votre frère, le demi-dieu. Un super soldat, légende vivante presque à la hauteur de sa légende. Un type avec un gigantesque problème caractériel. Un couple de tueurs d'élite. Et vous, mon grand. Vous avez réussi à énerver tout ce petit monde.
C'était mon plan.
Très mauvais plan. Quand ils viendront, et ils viendront, ce sera pour vous.
Mais c'est une armée.
Nous, on a un Hulk.
Je croyais que le monstre s'était enfui.
Non, vous pigez pas. Il n'y a aucun trône. Il n'y a aucune version de l'histoire où vous remportez le trophée. Peut-être que votre armée viendra et peut-être qu'elle nous surpassera, mais nous, on s'occupera de vous. Si on ne peut pas protéger la Terre, je peux vous jurer qu'on la vengera.
Oui, même s'il y a le gros bordel, de toute façon, ils chercheront à venger la Terre. Et là, on entendait Loki, donc le super méchant face à Iron Man. Il prenait le temps de discuter hein, avant l'ultime bataille. Alors, inutile d'attendre plus de finesse. Hein. Avengers est un film d'aventure et de science-fiction en 3D qui carbure à l'image léchée et au second degré. La première partie du film est certes un peu poussive, mais une fois la team en place, Avengers remplit bien le cahier des charges. Un monde en marge d'une autre, des effets spéciaux réussis, qu'il s'agisse des vaisseaux spatiaux, des super-héros ou des aliens et des bastons réglés au millimètre. C'est sans doute un peu moins léché que X-Men, un peu moins sombre, un peu plus fantaisiste aussi, mais Joss Whedon, auparavant connu pour avoir réalisé Buffy contre les vampires, s'en tire très bien. On pourra à l'occasion se demander où Nick Fury, qui est un archer redoutable, trouve toutes ses flèches. Quel est le secret de Black Widow, interprété par une Scarlett Johansson dans une tenue forcément moulante, et ce qui décide Hulk à être super sympa avec ses nouveaux potes. Et surtout, je vous recommande de ne pas quitter la salle avant le vrai générique, hein, puisqu'on nous présente un avant-goût d'Avengers 2. Ah, Marine a quitté la salle, vu sa tête, qui annonce donc une nouvelle franchise. Là, t'étais pressée de partir, c'est ça ?
Ah oui, non, c'était trop insupportable, tous ces gens autour de moi qui mangeaient du popcorn et qui avaient 15 ans et qui répétaient les phrases entre eux qui venaient de voir pendant 2h30.
C'était zut. Ah oui, ils étaient déjà dans le débriefing.
Oui, pour reprendre ce que tu disais, The Shield, en fait, ça veut dire le bouclier aussi. Je pense que c'est ça le véritable sens de cette bouclier. Organisation chargée de protéger la Terre.
Ah, d'accord.
Voilà.
Parce que moi, comme j'ai suivi la série, l'excellente série de Shield,
oui, ça veut dire l'insigne. Il doit y avoir plusieurs sens.
Oui, bon, il y a plusieurs sens. Alors, qu'avez-vous pensé d'Avengers, chers amis?
Bah, je trouvais le film plaisant, mais j'ai trouvé que le film ressemblait plus à un pilote, en fait. Il y a un côté très série télé, même dans la construction. Il y a un manque d'ampleur qui fait qu'on est très loin même des premiers Superman, des Spider-Man aussi, des X-Men. Enfin, je ne sais pas, je trouve qu'il y a un côté très série télé. Alors, je ne sais pas si c'est le format, puisque c'est en 1,85 et habituellement, tous ces films sont tournés en scope. Mmh. Et il y a un côté comme ça, un peu ramassé, et qui m'a un peu déçu. Mais après, c'est plaisant et je trouve que bon, tout le côté second degré passe bien.
Oui, heureusement qu'il y a ça, hein, s'il n'y avait pas ça de toute façon. Enfin, je crois qu'ils se sont beaucoup amusés. Et Robert Downey Jr., alors on l'a entendu en version française, puisqu'on l'a vu au multiplex, mais Robert Downey Jr. Enfin, donne
c'est lui,
un sacré punch.
Le plus intéressant du film, et parfois Hulk est très drôle, malgré lui.
Malgré lui, effectivement. Alors est-ce que ce côté série n'est pas donné finalement par l'abondance de personnages, parce que c'est ça aussi, la difficulté.
Oui, non, mais le premier X-Men avait ce côté-là, c'est la présentation de personnages qui dure à peu près plus de la moitié du film, hein, où on présente chacun des personnages avec leurs faiblesses, leurs forces, leur ego. Mais je sais pas, il y a un côté. Puis je trouve la 3D n'a aucun intérêt là dans le film.
Oui, je suis d'accord.
C'était assez limité, effectivement, mais c'était plaisant aussi.
C'est pas une nouveauté. Hein,
c'était pas bluffant, hein, voilà. Mais c'est rarement bluffant. Enfin, voilà, il faut toujours revenir à Avatar quand on parle de 3D. Marine, un petit avis ou pas?
Oui, moi j'aurais envie de dire que globalement ça casse pas des briques, mais en fait si, justement ça en casse beaucoup trop, parce que 2h30 de démolition non-stop, c'est un peu contre-productif quand même pour des super-héros, là, ils détruisent presque à eux seuls toute la Terre, donc il y a un moment, il faut aussi qu'il y ait autre chose, il y a quand même peu de dialogue, le fameux humour dont tout le monde se gargarise, je trouve qu'il vole vraiment pas haut, quoi. Il est juste destiné à faire rire les gamins de 15 ans qui sont là, et puis le second degré, heureusement quand même qu'il y en a, parce qu'il y a besoin d'une bonne dose de second degré pour faire passer toute la galerie de personnages totalement ridicules. Enfin, je veux dire, entre Thor, le viking avec son broching, Loki qui ressemble à Elise et Moon, je maintiens.
Avec une perruque, des cheveux longs. Hein,
avec
quoi.
Une perruque,
Moon,
voilà.
Je veux bien admettre, mais...
Enfin, je veux dire, voilà, il y a plein de personnages aussi qui sont secondaires, qui ne servent à rien. Et puis bien sûr sans parler, comme tu l'as dit, de tous les couacs dans le scénario. Enfin voilà, j'ai trouvé ça divertissant, mais je pense que c'est pas du tout un film adulte, c'est vraiment un film pour les ados qui volent pas très haut. Mmh. Et alors quand même, il y a un truc moi qui m'a choqué, c'est le seul personnage qui n'a aucun super pouvoir, c'est la fille, et elle en fait son seul pouvoir, c'est quoi ? C'est de savoir mentir et de savoir manipuler les hommes. Alors, je ne sais pas quel est le frustré qui a pondu ce personnage, mais je pense qu'il a un petit souci.
Ah, il faut remonter dans les années 60. Ouais. Hein, c'est à ce moment-là qu'il a été créé, ce personnage.
Et je vais même aller encore plus loin. Pourquoi est-ce que ce n'est pas elle qui se transforme d'un coup comme Hulk? Pourquoi ce n'est pas elle qui se transforme, qui devient d'un coup un espèce de gigantesque personnage, comme ça, qui craque tous ses vêtements? Parce que Hulk est un symbole phallique. Oui, tout à fait. Hulk est un fantasme phallique. Je maintiens. Oui.
Ah ben voilà, tu vois, t'as fait une analyse finalement assez profonde.
Non mais je pense que je vais écrire psychanalyse des comics Marvel, après psychanalyse des contes de fées.
Et puis
il y a pas mal de choses à en dire.
L'un des défauts du film, c'est qu'il y a un méchant pas crédible.
Ah non, mais il est pas crédible du tout, en plus, avec son doublage qui est vraiment risible.
Oui, oui, il prend
en
des petites poses.
Je pense qu'il y a quand même plein de choses qui ne passent pas.
Il ménage ses effets, et ainsi de suite, ouais. Mais après, c'est peut-être une idée aussi, c'est de les prendre isolément. Moi, j'ai vu le Iron Man 1, pas le 2, mais en l'occurrence, j'avais trouvé ça très très bien fait. Même Captain America, j'avais trouvé ça plutôt réussi. Sachant qu'il n'est pas très olé olé, hein, Captain America. C'est vraiment la rigidité, le patriotisme. On n'en fait pas grand-chose de Captain America.
On dirait un petit peu un Ken grandeur nature, qui est là juste pour être beau et pour être fort. Mmh. Voilà.
Eh bien, faites-vous votre avis en allant voir Avengers. C'est avec les lunettes 3D et ça passe forcément au multiplex Gaumont, là où les écrans sont géants, et puis aussi au CGR.
Au Royal.
Et au Royal, qu'on n'oublie pas, effectivement.
Là où les sièges sont pleins de pop-corn aussi.
Et même à l'Athénée Lunel. Et puis, ça nous donne l'occasion, ce film est bien de jouer avec les super-héros au blind test. Voici le premier extrait, c'est un classique.
Vers la fin des années 30, la crise économique qui sévissait à l'échelle mondiale n'avait même pas épargné une grande cité comme Metropolis. En ces temps de peur et de désarroi, la mission d'informer le public était largement assumée par le Daily Planet, le grand quotidien national, qui par sa clarté et son honnêteté était devenu le symbole de l'espoir pour les habitants de Metropolis.
Voilà, ça a été trouvé. Marine.
C'est Superman, mais première version, je pense, non ? Le timbre des voix, parce qu'il y a une nouvelle version qui a été faite il y a 5-6 ans.
Eh bien ça, c'est le premier de la franchise, c'était dans 78, film de Richard Donner avec Christopher Reeve, Marlo Brando et Gene Hackman. On passe au deuxième extrait, c'est un peu plus facile, c'est un peu plus récent.
Légalement, on est tenu de la relâcher. Ce qui est légal s'applique aux êtres humains. Les lois ne s'appliquent pas aux mutants. Le risque est trop grand. John, la guerre est imminente.
Oui, en effet. Mais contre qui nous battons-nous ?
La question est excellente, mais le terme de guerre n'est pas très indiqué, car il sous-entend que les deux parties auraient leur chance de l'emporter.
Et là, c'était la Reine Blanche qu'on entendait. Il était question de mutants, donc ça a été trouvé, Manu, c'est...
Les X-Men.
Et Bruno aussi a trouvé en régie. Et là, il se trouve que c'est X-Men, le commencement. Donc, c'est un préquel, c'est ça ?
C'est ça.
On revient au
début. On revient aux origines.
Film de 2011 de Matthew Vaughan. On passe, alors cette fois-ci, à un film X-Men, c'est Marvel. Et là, on va passer donc à un personnage de DC, enfin plusieurs personnages d'ailleurs de DC Comics.
Ainsi, Rorschach pense que quelqu'un prend les masques pour cible.
Tu crois que c'est possible ?
Je crois statistiquement qu'un meurtre ne fait pas la règle. Rorschach est un inadapté social, comme l'était le comédien. Il était limite nazi. Tu le sais mieux que quiconque.
Je ne suis pas là parce qu'il me manque.
Rorschach a l'air de penser que nous sommes les seuls à connaître nos vraies identités.
Une chose est sûre, la tienne est connue de tous. C'est pourquoi je te préviens en premier.
Merci, Ida. Mais je crains qu'il y ait une menace bien plus tangible à appréhender que le tueur de masque de Rorschach.
S'il fallait que les Russes aient recours au nucléaire, est-ce que John pourrait stopper les missiles ?
Même si John en pulvérise 99%, le 1% restant détruirait toute vie sur Terre. Même le docteur Manhattan ne peut pas être partout.
Alors, le gros indice, c'est Dr. Manhattan, qui serait capable effectivement d'éliminer 97% des missiles venant de l'Union soviétique. Alors, de quoi s'agit-il, Manu, t'as trouvé ?
Les Watchmen.
Voilà, tout à fait, les Watchmen, film de Zack Snyder. Un film pas facile à adapter, alors c'est un univers d'Uchronie, c'est-à-dire que on prend des événements historiques qui sont complètement transformés, puisque grâce au docteur Manhattan, qui a été manipulé dans des laboratoires, il a des super pouvoirs, il a réussi à faire gagner la guerre du Vietnam aux Américains, ce qui fait que la guerre du Vietnam a été gagnée, Richard Nixon est encore au pouvoir, et les super-héros sont plutôt détestés dans ce film, c'est ce qui se passe, et il y en a un même qui meurt, Et donc c'est un film pas facile à adapter. Alors toi t'as lu la BD qui est vraiment fabuleuse, mais le film, c'est un peu moins le cas.
J'ai plutôt apprécié le film, mais c'est vrai que la bande dessinée, c'est vraiment une sorte de feuilleton monstrueux. Et pour moi, il y a tellement de choses que c'est très, très, très complexe à en faire un film de 2 heures.
Effectivement. Allez, on retrouve cette fois-ci, encore une fois d'ailleurs, un personnage de DC Comics.
À première vue, je ne suis qu'un vulgaire comédien de vaudeville à qui les vicissitudes de la vie font jouer le vilain et la victime, et vice-versa. Ce visage n'est pas que le vil reflet de ma vanité, mais un vibrant vestige de la vox populi aujourd'hui vacillante et vaincue. Vous devez y voir les vieux restes d'une vexation vieillissante, aussi vive que vivante, et vouée à vaincre cette vermine vulgaire, vivace, virulente et vénale qui vivote en privant ses valeureuses victimes vaincues de la vérité et des vraies valeurs. Le seul verdict que je vois est la vengeance. Une vendetta violente, brandie tel un ex-voto, et non en vain, visant à faire vaincre la vertu face à cette vilenie levée dans les veines de nos villes.
Oh, que Quel talent pour l'allitération,
me semble-t-il. Incroyable.
Alors, bah, y avait un petit indice, mais je crois que ça a été trouvé en régie. C'est V pour Vendetta, comme le dit Bruno dans mon casque.
Cela explique cette accumulation de V.
V pour Vendetta de James McTagg, donc c'est adapté par les frères Warshawski, enfin qui nous ont donné Matrix
et n'existe plus à présent d'ailleurs.
Qui n'existe plus qui? Quoi?
Bah, qu'est-ce qu'ils foutent là?
Ah oui, bah, c'est vrai qu'ils font
Speed Racer.
Moi j'avais bien aimé Speed, j'avais adoré même, je dois dire, mais c'est vrai qu'il manque au cinéma pour apporter ne serait-ce qu'une nouvelle narration. Alors après l'Uchronie, eh bien là c'était la dystopie, hein, qui est une forme d'anti-utopie. Au lieu d'un monde parfait, on vous propose le pire, et là en l'occurrence c'est un régime fasciste contre lequel se bat V, voilà, qui est un vengeur masqué.
Oui. Comme Watchmen, c'est aussi une adaptation d'une BD d'Alan Moore.
Voilà, ouais.
La même chose.
Et pareil, années 88. Voilà. Donc ça, c'est plutôt du récent. Allez, on reste chez DC Comics.
Ce soir, vous allez tous participer à une expérience sociologique.
À minuit, j'explose tout le monde.
Cependant, si l'un des passagers d'un des ferries appuie sur le bouton, j'épargnerai ses occupants. Alors qui va gagner? La vermine ardemment poursuivie par... ou les civils tout beaux, tout innocents? À vous de choisir. Oh, et je vous conseille de vite vous décider, car les passagers de l'autre ferry pourraient être moins charitables que vous.
On n'approche pas.
Au nom de quoi c'est vous qui décidez? On devrait quand même avoir notre mot à dire.
C'est pas à nous de mourir. Tous ces criminels ont déjà eu leur chance.
Il est hors de question d'évoquer cette éventualité.
Pourquoi on n'a pas le droit de l'évoquer?
C'est exactement ce qu'il se dit sur l'autre bateau.
C'est simple, il nous suffit de voter.
Alors...
C'était Batman, The Dark Knight.
C'était Batman, oui.
Avec le regretté Heath Ledger qu'on entendait parler.
Eh oui, Le Chevalier Noir, avec donc film de Christopher Nolan. Et donc c'était la fameuse expérience, hein, une bombe dans chaque bateau, et voilà, savoir qui va faire sauter l'autre bateau le premier. C'est un film que moi je trouve exceptionnel.
En termes de super-héros, oui, pour moi c'est le meilleur qui a été fait.
Et il va y avoir bientôt la suite.
Cet été?
Et oui, absolument. Alors un dernier extrait. Alors là, bah, c'est clairement du second degré.
Papa, j'ai peur.
Allez Mandy, ma puce. T'es une grande fille maintenant, y a plus rien qui doit te faire peur.
Est-ce que ça va faire mal?
Ah, la pupuce. Juste une petite seconde, Trésor. Alors, la balle d'un revolver va à plus de...
1100 km/h.
1100 km/h. Alors, à une distance aussi proche, le choc va te faire tomber, ça c'est sûr. Mais ça ne fera pas plus mal qu'un coup de poing dans la poitrine.
Mais j'aime pas les coups de poing.
Tout va bien se passer, ma poupée. Oh! Alors, ça fait quoi? Ça fait pas mal, hein? Et c'est marrant, non? Voilà, tu sais ce que ça fait. T'auras pas peur si une saloperie de drogué te braque un Glock sous le nez.
De toute façon, j'aurais pas eu peur.
T'es bien ma fille, toi. Bon, allez, lève-toi. Encore 2 fois. Et on se rentre.
Encore?
Et voilà, c'était la voix française de Nicolas Cage. Ça a été trouvé, Manu.
Kick-Ass.
Voilà, le fameux Kick-Ass, réalisé par Matthew Vaughan, qui a donc aussi fait le X-Men Le Commencement, donc quelqu'un qui connaît bien l'univers des super-héros. Et là, ils se sont carrément amusés, hein, dans ce film.
Ah oui, très, très drôle et très politiquement incorrect même, je trouve.
Là, pour le coup, bah oui, le père qui tire sur sa petite fille, enfin voilà, enfin il lui apprend tout le maniement des armes, elle n'a que 10 ans, hein, enfin, on peut le dire. Et puis bah il y a une espèce de personnage adolescent qui décide de chausser les collants et puis de s'instaurer comme ça super-héros, sauf qu'il a aucun super pouvoir, donc il se fait vraiment ratatiner la gueule assez régulièrement. Kick-Ass, ça c'était sorti en 2010. Ainsi s'achève ce blind test concernant les super-héros. On aurait pu parler eh bien, d'autres films. Et de toute façon, on aura l'occasion de refaire un blind test puisque les films de super-héros, eh bien, ça marche plutôt bien.
Qui êtes-vous ?
Cinérama.
J'ai pas très bien saisi.
Sur Divergence FM.
Simon vit avec sa sœur pour seule famille dans une sinistre ville industrielle au pied de la montagne, reliée par un téléphérique à une station de ski où les riches touristes viennent passer leurs vacances. Sa sœur préfère en sortir et s'envoyer en l'air plutôt que de gagner de l'argent. Simon a appris à se débrouiller seul en allant voler là-haut des équipements de ski qu'il revend ensuite.
C'est 100% UV. Good one. 35 ça.
Tu l'as trouvé où le matériel petit?
C'est du déstockage, monsieur.
Déstockage.
T'as appris ça où?
Ouais, j'ai regardé faire, c'est tout. Que ce soit lisse comme la peau de cul.
Je demande combien déjà?
T'as refait toute la semaine. Tu descends pas en dessous de 200.
Would you like to join us?
Yeah. Oh, merci. Merci, madame.
T'as vu, on a déterré tout ton bordel, là. La petite ordure avec les ordures.
Alors, comment tu trouves?
Ouais, bien. Enfin, j'ai eu cul, je trouve.
Oh, t'es con.
T'habites où normalement?
Bah, chez mes parents.
C'est un peu le bronze, notre famille. C'est pour ça qu'il est là. Il va, il vient.
C'est quoi ces histoires? C'est quoi ces conneries?
Je leur ai dit de toute façon! Ça change quoi? Hein, ça change quoi?
Après Possession, qui montrait le clivage poussé à l'extrémité de sa violence entre riches et pauvres dans une station de ski, L'Enfant d'en haut reprend ce contexte que l'on associe davantage aux vacances et aux bronzés fonds du ski pour parler du choc des classes. Ursula Meyer, la réalisatrice, avait déjà exploré la notion de famille dissonante avec le très étrange et réussi film Home, dans lequel Isabelle Huppert cherchait à protéger sa famille d'une autoroute construite au bord de leur maison jusqu'à basculer dans la folie. Réussissant un bel équilibre entre drame social et complicité frère-sœur, L'Enfant d'en haut ne s'embourbe pas dans le mélo, malgré sa dureté et le jeu âpre de ses acteurs d'une justesse sidérante. La fraîcheur du très jeune interprète Cassé Motet Klein, vu dans Gainsbourg, Vie héroïque, évite le pathos social d'un Rosetta malgré l'influence des frères Dardenne que l'on ressent constamment. Entre intimité familiale et paysage d'une beauté à couper le souffle, L'Enfant d'en haut valse du très sensible à l'immensément grand, avec une réalisation maîtrisée. En contrebalançant son réalisme par des plans grand angle d'une beauté très étudiée, le film parvient à nous attendrir et à nous captiver malgré quelques longueurs. Une révélation majeure arrive d'ailleurs au moment propice pour relancer la machine un peu essoufflée du scénario. Retournement de situation que, pour une fois, je tairais. Et cerise sur le gâteau, vous retrouverez dans le film Gillian Anderson, alias l'agent Scully de X-Files. Aussi improbable que cela puisse paraître. Et si vous restez jusqu'au générique, vous pourrez apprécier également la quantité impressionnante de femmes qui ont travaillé sur le film. Il doit y en avoir environ 80% à tous les postes clés, chose suffisamment importante
c'est bien, ça, Marine,
pour
hein
être soulignée.
Oh oui, hein.
Je suis désolée que ce soit à la réalisation, à la production, au mixage, au montage, à la régie, il n'y a que des femmes, c'est très bien. Voilà.
Ah, mais souvent, quand il y a une réalisatrice, je crois qu'après, elle se charge effectivement de faire un casting où elle.
Tu insinues que toutes les réalisatrices sont forcément lesbiennes, c'est ça? Donc, elles ne s'entourent que de femmes?
C'est pas du
je
tout
vois,
ce que
je dis. Je vois, on continue dans les clichés, très bien, parfait.
C'est toi qui fais une analyse comme ça. C'est simplement qu'effectivement, elles se disent oui, autant faire monter d'un cran toutes ces femmes.
Elles sont sectaires, alors, c'est ce que tu veux dire?
Je pense qu'elles sont sectaires, mais c'est de la discrimination positive bien nécessaire.
Très
parce
bien,
que, parce que le cinéma est très masculin, quand même.
Voilà. Oui, en effet. Donc bref, si vous voulez voir L'Enfant d'en haut, c'est sorti il y a quand même déjà 2 semaines, mais ça passe encore au Diagonale. Voilà.
Merci Marine. On retrouve maintenant le festival des très courts.
Par la fenêtre, il comptait les pigeons, interrogeait l'inclinaison des antennes, comptait les voitures rouges ou bleues. Décelant immanquablement dans le chiffre qui en sortait les pires indices, il craignait, s'il sortait, de recevoir sur le coin du crâne un morceau de la station Mire, et il restait terré dans sa tanière, terrorisé par la crainte.
C'est un extrait d'un très court. Alors qu'est-ce qu'on appelle les très courts pour ce festival international des très courts ? Eh bien c'est un film qui dure moins de 3 minutes. Et pour en parler, eh bien Katia Martin-Maresco, qui est la directrice et fondatrice de ce festival. Bonjour Katia. Alors, vous êtes en pleine préparation, hein, parce que le festival débute ce vendredi. Alors, c'est dans 15 pays, 80 villes dans le monde, mais c'est surtout à Montpellier. Donc, on va plutôt parler de ce qui se passe à Montpellier. Alors, avant tout, c'est une compétition donc internationale de films très courts.
Voilà, c'est ça. Comme vous venez de le souligner, ça se déroule un tout petit peu partout autour du monde. Et donc, il y a quelques sélections qui se déroulent à Montpellier. Donc, la sélection Travelling 34, hein, qui est une première parce qu'elle a été lancée cette année, qui traite sur l'handicap hein, sous toutes ses formes. Et qui ça va se dérouler le dimanche à 15h au Gaumont Multiplex. Et il y a aussi la sélection Monde d'avant, Monde d'après. La sélection internationale 1 et 2, ces trois sélections se dérouleront au Diagonal Centre, ainsi que la sélection Parole de Femmes, qui est pour la quatrième année à Montpellier, qui a été lancée à Montpellier je l'ai lancée à Montpellier juste comme ça pour voir comment ça allait se passer. Puis finalement, aujourd'hui, elle se déroule dans les 25 pays et les 80 villes en simultané. Donc ça nous a un petit peu dépassé, on ne pensait pas du tout que cette sélection allait être exportée autant dans autant de pays et autant de villes en France.
Précisons-le Katia, hein, Parole de Femmes, donc c'est une sélection de courts-métrages qui parle forcément des femmes. Hein, voilà, c'est ça, c'est un regard singulier sur la femme.
Oui, tout à fait, c'est un coup de projecteur qu'on a voulu mettre sur les femmes avec la délégation régionale des droits des femmes qui a été à la base avec moi et on avait lancé cette section à Montpellier. Oui, tout à fait. On reçoit des films faits par des femmes, sur des femmes, faits par des femmes, sur des hommes, sur la vie de tous les jours, sur leurs conditions de vie. Donc il y a une sélection de 21 films qui se dérouleront ce samedi à 19h30 à la salle Rabelais.
Et donc il y a Parole de Femmes, on peut même parler hein, d'un DVD qui a été édité parce que c'est pas effectivement la première année qu'a lieu cette programmation Parole de Femmes et on peut se procurer le DVD, on peut trouver toutes les infos hein, sur www.filmtrescourts.com. Alors est-ce que c'est difficile finalement de trouver à chaque fois des films de moins de 3 minutes hein, c'est 47 films qui font partie de la compétition.
Absolument pas. On n'imagine pas le nombre de films qui se fait de 3 minutes et d'ailleurs moins, parce qu'on peut on peut dire beaucoup de choses en 3 minutes, même en 2. Hein, au cinéma, dans l'absolu, ça semble un peu court, mais finalement, on apprend beaucoup, enfin, on dit beaucoup de choses dans 3 minutes. Et on reçoit énormément de films, on en reçoit beaucoup de tous les pays, on en a reçu cette année 5000 films à peu près, et il a fallu après décortiquer et faire des sélections assez minutieuses, mais c'est assez étonnant d'ailleurs de voir ce phénomène.
Oui, parce que 5000 films, effectivement, ça commence à faire beaucoup. Alors, il y a des films d'animation, il y a des films de fiction, il y a même des documentaires. Enfin, voilà, tous les genres, en plus, sont admis. Hein.
Tout à fait. En fait, il y a différentes sélections. Il y a la sélection, donc, internationale, qui traite sur tout ce qui nous vient du monde entier. Il y a la sélection monde d'avant, monde d'après, la sélection familiale, qui s'adresse aux enfants, de 4 à 6 ans. Il y a la sélection animation. Mmh. Pareil, là, on en a reçu à peu près 1500 films. Et il y a la sélection musicale. Et cette année, on a éventuellement lancé cette sélection Travelling 34 à Montpellier parce que on s'est rendu compte qu'on recevait énormément de films qui traitent sur l'handicap et qui n'avaient pas du tout de sélection ou de festival à Montpellier qui traite de ce sujet-là.
Donc c'est une sélection à travers la sélection. Alors on retrouve évidemment tout le programme de ce festival international des très courts sur www.filmtrescourts.com, c'est bien ça ?
Oui, tout à fait.
Et puis on peut dire que ça débute le vendredi 4 mai. Alors c'est plusieurs lieux, hein. Il y aura la salle Rabelais, le cinéma Diagonal et puis aussi le Gaumont Multiplex.
Tout à fait, pour la première fois.
Oui, hein, notamment pour justement Travelling 34, ces films sur le handicap. Voilà. Parce qu'ils ont des grandes salles où ils peuvent accueillir facilement les handicapés, parce que c'était ça aussi l'intérêt, hein, c'était de faire venir des handicapés.
En fait, oui.
Eh bien, merci beaucoup, Katia.
Merci à vous.
Et puis, on peut aussi rappeler que le public pourra voter, hein, parce qu'il pourra voir la compétition, et puis il y aura un petit vote du public.
Tout à fait, il y a le vote du public, oui. Merci. Eh bien, écoutez, merci à vous, et à bientôt.
À bientôt.
Au revoir.
Voilà, donc c'était Katia Martin-Maresco qui est la fondatrice de ce festival international des très courts. Et on passe maintenant à l'agenda.
Cinérama.
Ça ne vous gêne pas si je prends quelques petites notes ?
Eh bien, il n'y a pas grand-chose. Si ce n'est que demain, jeudi 3 mai, à 20h au Diagonal, on en a déjà parlé, c'est le film « Impunité ». Film vénézuélien réalisé par Juan José Lozano. C'est une séance suivie d'un débat en présence du réalisateur et du collectif Alba Amérique Latine qu'on a reçu la semaine dernière pour parler des rencontres de l'Amérique Latine. Ensuite, on passe au mardi 8 mai à 20h au Diagonal. C'est l'avant-première de « Chercher le garçon », film de Dorothée Sebag. Et puis le mardi 8 mai également à l'Utopia, c'est Matria do Vino, séance unique, hein, le mardi 8 mai, présentée par le Festafilm, en présence du réalisateur Ken Payton, et ça parlera de vin. Et j'ai oublié quand même que ce vendredi à 20h30 à l'Utopia, il y a Au prochain printemps, c'est un documentaire de Luc Leclerc du Sablon, un documentaire autour de la politique, c'est une projection suivie d'une rencontre avec le réalisateur. Et puis toujours à l'Utopia, Today's in New York, 38 témoins, à moi seul, Belle Flower, Five Heavy Pieces, I Wish No The Secret, Le Fils de l'Autre, Les Adieux à la Reine, Les Nouveaux Chiens de Garde, Les Pirates, Pogno sur la Falaise, qui était reprojeté, Querelle. Alors, c'est pas le film de Fassbinder en fait, on l'a dit la semaine dernière, c'est pas du tout la ressortie du film de Fassbinder.
Rien à voir.
Et puis, reprojeté aussi Tous au Larzac.
C'est l'or, il est l'or.
Il n'y en a pas pour longtemps. Bien, ouvre tes oreilles.
Sors de ta connerie, sacré bon Dieu! Sinon, moi je te dévisse la tête et je te chie dans le cou!
Ça doit être une erreur dans l'enchaînement des flashbacks. Ça devrait pas trop durer.
Ainsi s'achève Cinérama. On se retrouve la semaine prochaine.
Oui, tout de suite après, vous avez rendez-vous avec 24 notes secondes consacrées à Ennio Morricone.
Ouais.
À la semaine prochaine.
Grand compositeur. À la semaine prochaine, donc, avec pas d'interview, je pense.
Cinérama.
Il n'y a que des combines. Il n'y a pas de héros. Rien que des combines. Il n'y a pas de gagneurs. Rien des combines et de la merde. Y a pas de saint, y a pas de génie, rien que des combines et des contes de fées, ça fait durer la partie.
Sur Divergence FM.